7h32, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le reportage Itinéraire Biz. Bonjour Clémence Alzard.
Bonjour Lucas, bonjour à tous et à toutes.
Clémence, premier épisode ce matin de notre semaine d'Itinéraire Biz consacrée à la crise économique et financière il y a tout juste 10 ans. C'était la fameuse crise des subprimes, ces créances hypothécaires américaines, une vaste escroquerie qui a coûté à des millions d'Américains leur maison, voire beaucoup plus.
Oui, beaucoup ont tout perdu après qu'a éclaté cette crise des subprimes et les stigmates de ce drame humain et social sont encore bien visibles, et pas seulement aux États-Unis. Et notons que ces crédits, ces subprimes, étaient accordés notamment, sinon exclusivement à des personnes pauvres. Moins on était solvable, plus on était la cible idéale. Et on fait d'ailleurs tout de suite un petit détour par les États-Unis.
Alors que les craintes de faillite se multiplient aux États-Unis, George W. Bush s'avance sur le perron de la Maison-Blanche.
L'intervention du gouvernement n'est pas seulement justifiée, elle est indispensable.
Le plan de sauvetage gigantesque prévoit de racheter les créances douteuses de toutes les banques américaines, prix à payer pour l'État. 700 milliards de dollars. En France comme ailleurs, les regards sont braqués sur les banques. Demain à l'Élysée, Nicolas Sarkozy rassemble ses partenaires européens. L'enjeu, trouver des solutions à une crise sans précédent.
Voilà, on écoutait à l'instant un extrait d'une archive INA de journaux de France 2. Nicolas Sarkozy, qui candidat, avait vanté les subprimes, mais le chef d'État, lui, confronté à la crise financière la plus grave depuis 1929, proposera un plan à 360 milliards d'euros pour recapitaliser les banques en difficulté. Alors, quels mécanismes se sont mis en place depuis 2017 pour prévenir une crise de cette ampleur? Je vous propose d'écouter Arthur Jurus et je m'excuse qu'il soit au téléphone. On ne fait pas toujours ce qu'on veut à la veille d'un 15 août.
C'est exact, il n'y a pas de souci.
Il est économiste, stratégiste à Mirabeau Asset Management, une société de gestion d'actifs. Il analyse donc la conjoncture économique et l'évolution des marchés financiers pour conseiller justement ses clients sur les opportunités d'investissement. Il y a 10 ans, il commençait d'ailleurs sa carrière dans le secteur bancaire et on l'écoute tout de suite.
Ce sont des effets notables depuis ces dernières années, c'est qu'il y a une prise de conscience sur l'importance à accorder à la stabilité financière. En Europe, il y a eu des évolutions institutionnelles, le mécanisme de résolution unique, le mécanisme de supervision unique qui ont été mis en place au sein de la zone euro. La BCE a aussi un rôle de supervision bancaire, un rôle qu'elle n'avait pas auparavant, qui lui a notamment permis d'anticiper certaines dégradations bilancielles comme les banques italiennes commerciales Veneto Banca et Banca Popular di Vicenza. Donc il y a quand même un rôle de supervision, un rôle de prévention, et qui a été beaucoup plus développé ces dernières années. Il y a également Bâle III, les réformes qui sont en cours pour une mise en œuvre. Donc il y a une évolution institutionnelle, une évolution réglementaire qui est une conséquence de cette crise financière de 2007, qui est notable, donc en zone euro, mais également aux États-Unis avec la loi Dodd-Frank par exemple.
Pour Arthur Jurus, il est évident que le principal canal de diffusion de la crise, ces subprimes, ont été sous-estimés à l'époque, mais il salue toutefois la prise de conscience générale depuis, ces effets d'apprentissage de la crise financière dont on verrait les résultats. Pourtant, il n'y a pas eu de révolution majeure, par exemple en France, puisque la promesse du candidat Hollande de séparer les activités bancaires restera finalement lettre morte du fait, selon l'économiste Isabelle Coupé-Soubéran, du lobby bancaire. Et aux États-Unis, la volonté affichée est désormais de déréguler. La Chambre des représentants a voté en juin dernier une loi donc qui remet en cause une bonne partie des réglementations financières de la loi Dodd-Frank adoptée après la crise de 2008. Et en interne, dans les banques, est-ce qu'on décourage désormais les conduites à risque? Réponse d'Arthur Jurus.
L'idée, c'est pas tellement d'empêcher la spéculation, parce qu'il y a beaucoup d'avantages positifs à cette spéculation. Elle a un rôle avant tout de financement de l'activité économique dans son ensemble et on a besoin aujourd'hui de croissance économique, donc on a aussi besoin du secteur financier pour apporter sa contribution positive à tout cela. L'idée, c'est de mieux percevoir le risque pour mieux le superviser, mieux le contrôler. Et en ce sens, il y a pas mal de réglementations en interne dans les banques qui ont été prises en compte pour justement mieux maîtriser les personnes qui ont un pouvoir d'influence sur les marchés, mieux comprendre leur activité, mieux les aider surtout. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une problématique de maîtriser le risque plus que forcément interdire à tout prix de spéculer
on semble rassuré, et là, de part et d'autre de l'Atlantique, puisque par exemple des banques américaines là ont récemment réussi leur test de stress annuel, que le Conseil de stabilité financière, le FSB, donc qui veille à ce que les régulations financières à travers le monde respectent les normes internationales, a récemment écrit dans une lettre adressée aux dirigeants du G20 que les formes toxiques des banques du secteur financier non régulé étaient en passe d'être éliminées. Donc a priori, là, tout tirait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si je puis dire.
Des progrès ont été faits sur notamment les produits titrisés qui ont posé problème à l'époque, où justement on en empilait des différents crédits de mauvaise ou de bonne notation. Là-dessus, effectivement, il y a un besoin de transparence imposé par les régulateurs, mais également qui est demandé par les différents clients, justement de savoir dans quoi on investit. Donc la sensibilité, on va dire, des banques aujourd'hui à savoir, à comprendre ce qui est présenté dans leurs produits a évolué dans le sens positif. Des produits toxiques, bon, la définition est large et aussi très subjective. Donc il faut savoir ce qu'on peut intégrer dans ces produits dits toxiques. Ce qu'on entend par là, ce sont des produits qui sont pas toujours bien compris par les opérateurs, qui sont parfois liés à des opérations de marché de gré à gré et qui ne sont pas forcément sous la coupe du régulateur. Voilà. Donc aujourd'hui, l'enjeu est toujours pour le régulateur comment étendre le segment de supervision. Là-dessus, il y a eu d'importants progrès qui ont été faits depuis 2007. Et comment aussi sensibiliser les banques d'investissement à mieux prendre en compte ce risque dans leur bilan. Encore une fois, c'est un effet d'apprentissage de la crise financière de 2007 qui va être long, qui va prendre du temps, mais qui progressivement, opérationnellement, se met en place au sein des banques.
Selon Arthur Jurus, il est impossible de savoir si une telle crise pourrait se reproduire, ou en tout cas on ne pourrait pas l'anticiper. De nouvelles pratiques, de nouveaux usages des opérateurs pourraient s'avérer à risque. Par ailleurs, il existe des facteurs de risque exogènes, les instabilités politiques ou géopolitiques par exemple. Donc la crise de Corée du Nord, Trump, en est une parfaite illustration.
Et pour ce qui est de l'argent que les Français ont déposé à la banque par exemple, est-ce qu'il est toujours sécurisé ?
Alors oui, les déposants bénéficient d'une garantie de leur dépôt, mais encore une fois, c'est assez difficile de savoir si les banques utilisent mieux l'argent des déposants. Les activités spéculatives en soi n'ont pas été remises en cause.